Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, on fera, comme à chaque émission, un point complet sur l'actualité sportive avec Jean-Noël Ducasse. On se penchera également sur les dernières infos économiques en Australie avec Nicolas Perpich. Et puis enfin, on va discuter avec un jeune écrivain, Guillaume Besson, qui vient de publier un roman qui raconte les aventures de trois jeunes backpackers français en Australie. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principales informations de ce jeudi 22 juillet 2021. 124 nouveaux cas de Covid détectés en Nouvelle-Galles du Sud, c'est un nouveau record depuis l'apparition de ce foyer épidémique le mois dernier. Le centre de la Chine est lui en proie à des inondations catastrophiques, des milliers de personnes sont actuellement privées de tout, on ira en reportage sur place. Et à Tokyo, nous sommes à la veille de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques. Les Japonais, eux, sont plus que jamais opposés à la tenue de cette compétition qui, en cette période de pandémie, ils auraient préféré voir annulée. On n'a jusqu'à présent pas constaté une explosion des nombres de cas de Covid à Sydney depuis l'apparition ici de ce variant Delta. Mais plus de trois semaines après le début du confinement, on ne constate pas de baisse non plus. Au contraire, puisque aujourd'hui, les autorités ont annoncé le plus important nombre de cas recensés sur une seule journée. Un nombre de cas qui s'établit aujourd'hui à 124. Un record qui pourrait même encore être battu dans les jours à venir. C'est l'avertissement qu'a donné ce matin Gladys Perregé-Client.
I'm expecting case numbers to go up even higher. It's really, really important to continue those high rates of testing because as Dr. Chant said earlier this week and towards the end of last week, it's really important for us to scoop up all the possible cases that are out there. And we're also finding cases when we're testing workers during that 3 days of required testing.
Dans le Victoria, où on entame une deuxième semaine de confinement, 26 nouveaux cas recensés aujourd'hui, mais presque tous, à l'exception de deux, étaient déjà isolés durant leur phase infectieuse. Et puis enfin, en Australie méridionale, où la population est, elle, confinée depuis mardi soir, les autorités recensent aujourd'hui 6 nouveaux cas, parmi lesquels on trouve un enfant de moins de 5 ans. Les autres sont des adultes qui ont tous visité récemment un vignoble qui se trouve dans la banlieue d'Adélaïde. Le dirigeant de l'État, Stephen Marshall, estime que la forte contagiosité du variant Delta justifie pleinement sa décision d'avoir instauré le confinement.
We've gone hard, we've gone early, we've gone with the cooperation of the people of South Australia, and we need that cooperation to continue into the future. We now have 12 cases.
Et le retour des confinements, c'est aussi le retour de la division de l'Australie en toute une série de micro-États. L'Australie occidentale a ainsi annoncé la fermeture de sa frontière avec l'Australie méridionale et le Queensland, qui bloquait jusqu'à présent les arrivées de seulement les personnes venues de Sydney, ferme à partir de demain 13h les portes de son État à toute la Nouvelle-Galles du Sud. Seule exception, une petite zone tampon de part et d'autre de la frontière au sein de laquelle les habitants pourront continuer à circuler d'un État à l'autre. Mais cette zone tampon n'inclut pas la ville de Coffs Harbour. Et ces confinements, ils coûtent cher, 300 millions de dollars par jour, d'après le trésorier fédéral Josh Frydenberg, qui a rappelé hier qu'actuellement c'est la moitié de la population australienne qui est confinée. Il était sur ABC ce matin, il s'est également exprimé à propos de la campagne de vaccination, une campagne qui d'après lui pose de nombreux défis.
There are some things we can control, other things we can't. More importantly, I accept, the Prime Minister accepts, the government accepts the responsibility for our health and economic response. But I want to point out to you as well, just as the vaccine rollout has had its challenges, we have also saved some 30,000 lives from being lost. If you'd seen the loss of life that we'd seen across the OECD on average, more than 30,000 lives would have been lost right now. Thankfully, it's under 1,000.
Et la veille déjà, la campagne de vaccination et son rythme très lent étaient déjà au cœur de la conférence de presse donnée par le Premier ministre, conférence de presse au cours de laquelle un échange très musclé s'est déroulé entre d'une part Scott Morrison et de l'autre Jace, le présentateur de la matinale de Kiss FM. Ce dernier a insisté pour que le Premier ministre accepte de reconnaître sa responsabilité dans l'échec qui est pour l'instant la campagne de vaccination, responsabilité reconnue du bout des lèvres par Scott Morrison, mais ça n'était pas suffisant pour ce Jace. Il est même allé jusqu'à demander à Scott Morrison de présenter des excuses, estimant qu'il était, en raison de cette campagne de vaccination ratée, responsable au moins partiellement du reconfinement de la moitié de la population. Scott Morrison, sans surprise sur ce sujet, ne s'est pas excusé. Et ce matin, c'est le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui est revenu sur cette polémique. Il a notamment expliqué comment lui s'y serait pris pour assurer la campagne de vaccination.
I reckon he was channeling Elton John, you know. Sorry seems to be the hardest word. He would have been better off us saying, sorry, everyone has made mistakes. No one's perfect. The problem is that, you know, he had said so many times, it's not a race. Truth is, it is a race. It always was a race. We would have done what the experts were saying and done 5 or 6 deals last year. And yep. We were saying it. We were saying you've got to hedge your bets here.
Des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices ravagent actuellement la vallée du fleuve jaune dans le centre de la Chine, une région où est tombée en 3 jours plus de pluie que normalement en une année entière. Sur place, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité, de téléphone ou encore d'accès à Internet. On écoute le reportage dans la région de Stéphane Lagarde et Huang Chengquang, envoyés spéciaux pour RFI.
Les valises à roulettes au milieu de la chaussée, peu de voitures en circulation de toute façon, comme de nombreux habitants de la province du Henan. Ce couple âgé ne sait pas encore où il va passer la nuit.
On va vers la rue Yuming. On n'a pas trouvé où dormir pour l'instant. Comme vous le voyez, il n'y a pas de bus, pas de taxi. Alors on marche. Près de 10 000 personnes ont dormi à la gare hier. Tous les hôtels du quartier sont pleins. On va à 4 stations de métro d'ici pour voir s'il y a des chambres.
Les hôtels ont été pris d'assaut après les scènes de chaos mardi soir. Les voitures endommagées, la boue sur le bitume témoignent de la violence de la montée des eaux. La rupture des télécommunications aussi. Le réseau est encore très instable, nous dit Noé dans son SUV. Ce trentenaire dépanne les habitants sans voiture. Il faut rouler pour capter le Wi-Fi, dit-il. Rouler ou marcher pour pouvoir téléphoner, pour se ravitailler, explique encore cette retraitée.
Beaucoup de magasins sont fermés, certains n'ont plus d'électricité et d'autres ont été dévalisés. Les habitants des quartiers les plus touchés par les crues ont fait les courses pour tenir plusieurs jours, ça a été la razzia.
J'ai razzia toujours chez cet épicier resté ouvert, où le café dans les gobelets en carton a la même couleur que la rivière Chilireux, qui pourrait bien ressortir de son lit ces prochains jours comme d'autres cours d'eau à Zhengzhou, si la météo reste à la pluie. Stéphane Lagarde, Wang Chengquang, Zhengzhou RFI.
Direction l'Europe maintenant, où le Royaume-Uni veut renégocier certains termes de l'accord conclu avec l'Union européenne à propos du Brexit. Plus particulièrement, il s'agit de la question des échanges commerciaux avec l'Irlande du Nord, qui pourtant avait fait l'objet d'un accord signé l'an dernier. David Frost, le ministre britannique en charge de la question du Brexit, pense que certains points sont à revoir. Il estime qu'en l'état, l'accord signé donc l'année dernière n'est pas satisfaisant.
We've worked with the EU to try to address these challenges. Some avenues for progress have been identified in certain areas. But overall, those discussions have not got to the heart of the problem. Put very simply, we cannot go on as we are.
Et Brandon Lewis, qui lui est secrétaire d'État en charge de l'Irlande du Nord au sein du gouvernement britannique, indique pour sa part que la Grande-Bretagne veut un moratoire afin de renégocier les conditions du protocole sur l'Irlande du Nord signé avec Bruxelles.
see an opportunity to proceed differently, to find a new path, to seek to agree with the EU through negotiations, a new balance in our arrangements covering Northern Ireland to the benefit of all. And it is in that spirit that today's command paper outlines the new balance we wish to find. It is a balance which needs to ensure that goods can circulate much more freely within the UK customs territory, whilst ensuring that full processes are applied to goods destined for the EU. It's a balance which needs to enable all in Northern Ireland to continue to have normal access to goods from the rest of the UK.
Et puis on traverse la Manche pour aller en France où le Premier ministre Jean Castex a confirmé hier dans une interview donnée à la télévision que le pays était entré officiellement dans la quatrième vague du Covid. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas a presque doublé. Il atteint désormais les 20 000 cas par jour, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mai dernier. Les parlementaires, de leur côté, affinent le texte de loi qui rendra obligatoire le pass sanitaire. Mais celui-ci, en fait, est déjà indispensable pour rentrer dans des lieux culturels ou sportifs recevant plus de 50 personnes. Alors, comment ça se passe? Écoutez ce reportage effectué à Paris, dans un musée du 5e arrondissement. Laura Laplan, RFI.
Bonjour. Pour se rendre au Muséum d'Histoire Naturelle, il faut désormais montrer patte blanche. Ce matin, des centaines de visiteurs patientent plusieurs minutes à l'extérieur. Et pour les entrées sont contrôlées.
La vaccination sur l'application.
Vaccination. Ça y est,
Chaque personne doit montrer un QR code et une pièce d'identité. Une mesure pénible pour Mélanie.
On avait prévu cette journée depuis longtemps, donc on se plie. Mais on n'est pas vacciné, donc ça montre notre avis sur le sujet.
Mais dans cette file d'attente de plusieurs mètres, tout le monde n'a pas le même avis. Et Nora est venue au musée avec son mari et ses enfants.
C'est une bonne mesure en fait pour essayer d'inciter les gens à se faire vacciner et à ce que tout le monde puisse revivre comme avant. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner et que du coup ils se sentent bloqués. Mais bon, en même temps, les vaccinations obligatoires, c'est pas la première.
L'entrée en vigueur du pass sanitaire signe aussi la fin de l'obligation du port du masque à l'intérieur. Mais ici, il faudra quand même le porter. Emmanuel Scouliot, c'est le directeur général délégué du Muséum d'Histoire Naturelle.
On a maintenu l'obligation du port du masque dans les espaces fermés. Elle recommande aux gens de le porter à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que nos personnels ne sont pas tous nécessairement encore vaccinés aujourd'hui. Pour rassurer tout le monde, les visiteurs et nos personnels, on a décidé pour le moment de maintenir l'obligation du port du masque dans les espaces fermés.
Pour le moment, seuls les lieux culturels, les lieux de culte et les établissements sportifs sont concernés par le pass sanitaire. Début août, il s'appliquera aussi aux bars et restaurants.
Et l'annonce officielle a été faite hier soir. C'est donc Brisbane, mais aussi la Gold Coast, qui accueilleront les Jeux Olympiques en 2032. Une annonce célébrée hier soir avec un grand feu d'artifice dans la capitale du Queensland. Le ministre fédéral des Sports, Richard Colbeck, a lui indiqué qu'il était impatient de découvrir la prochaine génération d'athlètes, celle qui participera à cette compétition.
They will make a huge difference to our country. And the timing coming on the eve of the Tokyo Olympiad, those young Australians who might aspire to represent their country now can aspire to do that on home soil, which is a rare privilege.
Mais avant de nous projeter sur 2032, il y a bien sûr les Jeux de Tokyo, puisque la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu demain soir. Des Jeux qui, sur place, sont loin d'enchanter les Japonais. Il y a quelques semaines encore, ils étaient plus de 80% à souhaiter que ceux-ci soient annulés. Ils ont finalement été maintenus et ça leur pose problème, puisque les Japonais, dans leur grande majorité, craignent que les athlètes venus des quatre coins de la planète ne respectent pas le protocole sanitaire très strict qui leur est imposé. À Tokyo, le reportage de Cléa Broadhurst pour RFI.
Des mesures draconiennes ont été mises en place pour la venue des étrangers au Japon. Qu'ils soient sportifs, encadrants ou journalistes, ils doivent demeurer dans une bulle le temps de l'événement. Mais la peur du danger que cette vague de nouvelles arrivées crée est parfois considérée menaçante, comme l'explique Koichi Nakano, un professeur de sciences politiques à l'université de Sofia à Tokyo.
Ce que je trouve très inquiétant, c'est que contrairement à l'esprit même des JO, la xénophobie pourrait augmenter au Japon suite au maintien des Jeux pendant la pandémie. Il y a toujours eu au Japon, pays insulaire, l'association que le danger venait de l'étranger. Et c'est de pire en pire à cause des craintes des nouveaux variants aujourd'hui. Alors que les étrangers qui viennent sont testés, vaccinés, mis en quarantaine, mais la perception, c'est qu'ils représentent un danger.
C'est une crainte palpable, mais qui n'est pas non plus dans tous les esprits.
J'ai hâte que les JO commencent. Je ne suis pas inquiet.
C'est bien que ça aille.
J'ai conscience des risques, même avec les mesures, mais il ne faut pas en faire toute une histoire. C'est sûr que des cas vont apparaître partout. Il faut arrêter de dramatiser la situation.
Et dans l'ensemble, les Tokyoïdes disent se sentir plus rassurés à présent que la campagne de vaccination semble enfin être réellement lancée. Claire Broders de Tokyo, RFI.
Et puis, comme toujours, on termine cette page d'information avec la météo du jour en Australie. 17 degrés des nuages aujourd'hui à Perth, 11 degrés à Adélaïde, 12 degrés à Melbourne, du soleil et 11 degrés à Canberra. Et tant mieux parce que ce matin, eh bien, il y avait du givre et des températures négatives. Soleil également à Sydney avec 17 degrés de prévu aujourd'hui, 20 degrés à Brisbane et jusqu'à 32 degrés à Darwin.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la nouvelle que Brisbane va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032. Les Jeux auront lieu du 23 juillet au 8 août. La décision est tombée hier. Brisbane sera la troisième ville australienne après Melbourne qui a organisé les Jeux en 1956 et Sydney en l'an 2000. On écoute Thomas Bach, le président du CIO.
Brisbane. They're a host which is fully aligned with our reforms, with Olympic Agenda 2020 plus 5. It's a very sustainable project, and it's a project with a great legacy, and it's a project from a sports-loving nation. And this is what it is about, to see the sports-loving Aussies celebrating the Olympic Games.
Et les JO de Tokyo, le cavalier australien Jamie Kerman a été testé positif à la cocaïne et a été suspendu des JO. C'est ce qu'a déclaré hier Equestrian Australia. 6 matchs de foot féminin hier à Tokyo avec l'Australie qui a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Les Américaines perdent face à la Suède 3-0. Les Pays-Bas battent la Zambie 10-3. Le Brésil écrase la Chine 5-0. La Grande-Bretagne bat le Chili 2-0. Le Japon et le Canada ont fait match nul, 1 but partout. Le foot masculin, c'est à partir de ce jeudi, France-Mexique, comme nous l'explique Martin Guèze pour RFI.
Oui, avec notamment André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les deux Français qui évoluent dans le club mexicain des Tigresses de Monterrey. Ils vont débuter leur tournoi face aux champions olympiques 2012, des Français qui n'avaient plus disputé les Jeux en football depuis 1996 et qui se présentent avec une équipe un petit peu bricolée à la dernière minute car de nombreux clubs n'ont pas voulu laisser leurs jeunes stars s'envoler pour le Japon. Et c'est bien dommage, regrette le gardien tricolore Paul Bernardoni. Ses petits camarades restés à la maison ratent quelque chose.
C'est assez déroutant pour nous parce qu'on vit quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on vit habituellement en club. On est dans une sorte de petite bulle à nous, dans notre tête, tout ça. Là, on est au même niveau que tout le monde, entre guillemets, on est incognito. Et je trouve que c'est une belle leçon aussi d'humilité. Et c'est aussi pour ça qu'on était là, parce qu'on a retrouvé tous ces athlètes, être là, et on est plus que fiers. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on pense quand on est gamin, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vraiment super plaisant d'être là. Et on a vraiment très très envie de se battre pour
quelque chose. Alors, ramener quelque chose, ça commence par France-Mexique. Ça suivra aussi de choc Brésil-Allemagne et également Égypte-Espagne, Afrique du Sud, Japon et Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite.
Et maintenant, je vous propose ce focus sur Astrid Guyard pour l'épreuve de fleuret féminin par équipe. Elle prendra sa retraite après les Jeux. Christophe Diremzian, RFI.
Le moment de la sortie de piste définitive est presque arrivé. Un dernier salut, fleuret en main, vers le ciel, l'adversaire, puis le sol. Et Astrid Guyard en aura terminé avec 2 décennies à croiser le fer avec l'élite de l'escrime, mais aussi à déjouer les tentatives de son corps de lui faire dire stop plus tôt. Les alertes se sont multipliées et attendre 2021 pour tirer sa révérence n'avait rien d'évident.
Moi, je m'étais programmée pour l'été 2020. Et mon corps aussi, je crois, quelque part. Et donc, quand il a fallu rajouter un an, on s'est mis d'accord, mon corps et moi. Donc oui, c'est pas neutre. Mentalement aussi, hein, il y a une certaine usure avec le sport de haut niveau et en même temps une aventure olympique. On se dit, allez, rétrospectivement, un an sur 20 ans de carrière, qu'est-ce que c'est? Oui, mais un an en fin de carrière, c'est beaucoup pour le corps. Donc, on a reclarifié quels sont les objectifs et quelque part, j'aurais eu des regrets si j'avais arrêté l'année dernière. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'aller au bout de l'aventure et en plus de partager cette aventure collectivement. Je trouve que c'est une belle façon de terminer sa carrière.
Car une compétitrice comme elle ne peut pas se résoudre à avoir vécu 4 jeux sans en avoir rapporté la moindre médaille. Remplaçante à Pékin, 10e à Londres, 6e à Rio, il y a comme un mauvais goût d'inachevé à chasser. Se préoccuper des autres, c'est une seconde nature chez Astrid Guyard, déjà très active en dehors du sport. Brillante diplômée en ingénierie aérospatiale, responsable d'un laboratoire de recherche chez Ariane Group, auteur de livres de jeunesse, la voilà depuis avril dernier co-présidente de la commission des athlètes du Comité Olympique Français, un rôle logique pour cette femme de conviction.
J'ai cette personnalité engagée qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense sur le sport féminin, notamment au travers de la problématique de la maternité. Comment une sportive en fait arrive à co-construire son projet familial et son projet de performance sportive, d'autant plus là avec l'Olympiade de 3 ans qui nous attend entre Tokyo 2021 et Paris 2024. Il y a plein de sujets liés au cycle menstruel, à l'endométriose, à des problématiques qui sont féminines. Donc effectivement, le sport féminin, c'est la médiatisation, la visibilité de la femme dans le sport, mais ça va bien au-delà sur comment on accompagne mieux une sportive dans toutes ses spécificités.
Et comment on l'aide, le cas échéant, à libérer sa parole de victime de violences sexuelles ou de femme désireuse d'assumer publiquement sa part d'intimité, comme Astrid Guyard l'a récemment fait en révélant son homosexualité dans un documentaire de Canal+, autant de luttes qu'elle espère contribuer à faire avancer dans sa future vie.
Et les JO toujours avec les basketteurs français qui se préparent, comme nous l'explique Cédric De Oliveira pour RFI.
Pour l'instant, ils profitent du calme de la campagne japonaise près du mont Fuji. Peut-être l'occasion de se ressourcer. Après le début de préparation olympique, très décevant. 3 défaites pour les joueurs de Vincent Collet. 2 face à l'Espagne et surtout 1 face au modeste japonais ce dimanche, 81 à 75. Il y a mieux pour se rassurer, mais l'arrière Evan Fournier estime qu'il reste du temps aux Bleus pour travailler.
Bah, par rapport aux 3 défaites, ça reflète qu'il y a forcément du boulot. Après, quand on regarde bien nos matchs de préparation, c'était quand même dans un cadre très particulier. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude, mais voilà, ça montre qu'il y a plein d'axes où on peut s'améliorer et qu'il nous reste encore du chemin pour pouvoir atteindre notre meilleur niveau. La préparation, c'est fait pour ça. Et on peut en apprendre à condition de se rendre compte de ce qu'on fait mal. Et donc, je reste confiant, personnellement. Il faut apprendre à jouer ensemble, il faut créer des automatismes, il faut se faire confiance et... Il nous reste une semaine d'entraînement environ et il faut apprendre beaucoup en vidéo parce qu'on ne pourra pas s'entraîner 2 heures tous les jours et trouver des automatismes. Mais bon, ça viendra aussi durant la compétition avec les matchs.
L'un des tauliers de l'équipe de France de basket, Evan Fournier, premier match pour les Bleus dans ces JO. Ce sera face aux redoutables États-Unis, les favoris, dimanche prochain.
On passe au NBA avec Milwaukee qui a remporté son 2e titre de champion après avoir gagné la 6e finale contre les Phoenix Suns, 105 à 98, 4-2 pour la série. Gianni Antetokounmpo, le géant grec d'origine nigériane, a marqué 50 points pour les Milwaukee Bucks. On l'écoute.
I started playing basketball. Just to help my family.
J'ai commencé à jouer au basket juste pour aider ma famille, vous savez, essayer de les sortir de la misère, un problème auquel nous faisions face lorsque nous étions enfants. Mais je n'ai jamais pensé qu'à 26 ans, je gagnerais une finale NBA. Déjà, juste pouvoir en jouer une, j'étais heureux, même si je ne gagnais pas. Je voulais juste jouer au basket. Je n'ai jamais pensé qu'à l'âge de 26 ans, je serais assis ici avec ces 2 beaux trophées. Quel chemin parcouru!
On passe au foot avec Monaco, 3e de Ligue 1 l'an passé, qui se prépare pour des barrages début août pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Thomas de Saint-Léger. RFI.
Pour rejoindre Lille et le PSG dans le grand tableau, les Monégasques devront d'abord écarter le vainqueur du duel qui opposera le Rapid de Vienne au Sparta Prague, deux clubs classés 2e de leur championnat respectif la saison passée. Match aller le 3 ou le 4 août à Monaco, retour une semaine plus tard sur la pelouse de l'adversaire. Si tout se passe bien pour les hommes de Niko Kovac, il leur restera encore une étape, un dernier tour de qualification. Le plus corsé, les Monégasques pourraient y retrouver par exemple le Shakhtar Donetsk ou le Benfica Lisbonne, deux habitués de la phase de groupe. Bref, le billet n'est pas gagné, il se mérite. Et d'ailleurs, ce parcours du combattant réussi rarement aux équipes françaises. Sur les 5 dernières tentatives, un seul pensionnaire de Ligue 1 s'en était sorti. C'était déjà Monaco en 2016, le début d'une campagne historique qui avait vu Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l'époque atteindre les 2 demi-finale de cette Ligue des Champions. En cas d'échec, le club de la Principauté serait reversé en Ligue Europa.
Le mercato, Olivier Giroud, 34 ans, s'engage avec l'AC Milan et il a tenu sa première conférence de presse. On l'écoute.
Je me sens vraiment comme un enfant, même à presque 35 ans, simplement parce que quand j'étais petit, je voyais Jean-Pierre Papin, Andriy Shevchenko et bien sûr Paolo Maldini, et cette équipe me faisait rêver. J'étais aussi un grand fan de Marco Van Basten. Il y a eu tellement de grands joueurs dans cet immense club d'Europe. C'est pour ça que je suis venu et j'espère vraiment faire de grandes choses avec cette équipe.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez SBS, le programme en français. Et le morceau qu'on vient d'écouter, il s'appelle « Le Mambo du Légionnaire ». Il est interprété par la chanteuse Clémentine. SBS, c'est l'émission en français. Il est 13h et quasiment 30 minutes. C'est le moment pour nous de nous intéresser à l'économie en Australie. On retrouve pour cela notre spécialiste Nicolas Perpich avec Jean-Noël Ducasse.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Comme tous les jeudis, c'est le moment de décrypter l'actualité économique en Australie en ce milieu de semaine. Et avec moi, j'ai Nicolas Perpich au téléphone. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bertrand.
Aujourd'hui, nous avons pratiquement la moitié de la population australienne en confinement. Avec le confinement à Melbourne, Sydney et Adélaïde, ça fait pratiquement la moitié de la population. Ben, quels sont les effets sur la croissance et les effets sur l'économie australienne?
Ben, assez importante, oui. Parce que, bon, ça, c'est des centres économiques énormes. Donc, c'est sûr de réduire le produit intérieur brut du pays, mais c'est difficile à savoir par combien ça va réduire, en fait. Et, bon, on sait que, aussi, l'interdiction sur la plupart des constructions pendant ce confinement à Sydney, ça va avoir un grand effet tout seul. Et, en fait, la Commonwealth Bank a estimé la semaine dernière que le confinement seulement à Sydney, ça allait coûter 1 milliard de dollars chaque semaine. Mais maintenant, ils pensent que ça va être le double de ça, puisqu'il y a cette interdiction sur presque toutes les constructions. Donc, ils pensent à peu près 2 milliards de dollars par semaine. Et ça, tout seul, c'est l'équivalent de à peu près 0,4% du produit intérieur brut du pays entier. Alors, Masters Builders Australia, ils disent que la construction en Nouvelle-Galles du Sud, ça vaut 750 millions de dollars toutes les semaines et il y a à peu près un quart d'un million de travailleurs dans la construction là-bas. Donc, c'est énorme. Il y a à peu près 1000 nouvelles maisons qui sont commencées chaque semaine. Donc, presque tout ça, ça s'est arrêté maintenant. Donc, c'est un effet économique vraiment très, très important. Bon, l'estimation pour Melbourne, le confinement là, c'est à peu près 700 millions de dollars chaque semaine. Donc, c'est beaucoup aussi. Mais le problème, si on regarde les États comme ça, c'est que les gouvernements aussi sont obligés d'arrêter leur programme d'infrastructure, de construction. Par exemple, à Sydney, un chemin de fer entre Chatswood et Bankstown. Il y a le West Connects Motorway, il y a le deuxième aéroport à Sydney. Donc, des projets vraiment, vraiment énormes qui valaient à peu près 1,8 milliard de dollars chaque mois. Alors, bon, le plus longtemps que ça continue, ces confinements, le plus énorme sera l'effet sur l'économie, mais aussi le problème, c'est que pour des énormes projets comme ça, c'est pas facile de les arrêter comme ça tout de suite et après de les redémarrer. Donc, les grandes compagnies de construction, eux, ils ont besoin de savoir, ils aimeraient bien savoir quand est-ce que ces confinements vont s'arrêter. Comme ça, ils peuvent se préparer pour recommencer ces énormes projets.
Un autre effet de la pandémie, c'est que le prix des voitures d'occasion a beaucoup augmenté. Ça, c'est tout à fait inattendu.
Oui, c'est vraiment intéressant, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs qui ont essayé d'acheter une voiture, là, une voiture d'occasion, peut-être, et c'est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a les gens qui veulent voyager un peu plus dans leur région, dans leurs états. Souvent, ce n'est pas possible de voyager ailleurs. Et donc, le prix des voitures, des campeurs, des caravanes, des 4x4, même les bateaux, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. Et en fait, Moody's Analytics, ils estiment que le prix des voitures a sauté par 34% pendant l'année dernière et 10% pendant la première moitié de cette année-là. Donc, c'est un peu moins que l'année dernière, mais quand même intéressant. Et ils disent qu'il y a une limite de nouvelles voitures. Certaines marques de nouvelles voitures sont assez limitées parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un manque de puces d'informatique qui sont vraiment importantes pour ces voitures. Il y a eu un feu dans l'usine de fabrication de ces puces d'informatique, et c'est sûr que ça a retardé le développement de tout un tas de voitures. Donc ça, c'est assez incroyable. Ils attendent que ça va recommencer. Et c'est sûr que ça, il y aura plus de, ils vont recommencer à produire ces puces. Et bon, tout va aller bien. Mais quand même, Moody's pense que le prix des voitures va rester élevé pendant au moins le reste de l'année 2021. Et après, bon, ça va commencer, les prix devraient commencer à retomber. Mais si on regarde, par exemple, un exemple, c'est une voiture d'occasion, une Toyota de 2019, un Hilux, avec 30 000 kilomètres déjà utilisés, ça se vendait pour à peu près 90% de son prix quand c'était nouveau au début de l'année. Donc, ça a vraiment pas trop baissé. Une voiture de 2018, la même marque, qui avait à peu près le même nombre de kilomètres, mais de 2018, ça vaut quand même 80% de son prix originel du début de l'année 2020. Donc, les prix ne baissent vraiment pas du tout, presque très peu, en fait, on peut dire. Alors, on va voir comment ça se passe, mais si les gens peuvent attendre avant d'acheter une autre voiture, ça vaut peut-être le coup.
Un autre effet de la pandémie tout à fait inattendu. Voilà, Nicolas, en tout cas, merci infiniment de nous avoir décrypté l'actualité économique de ce jeudi.
Merci beaucoup, un grand plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
J'ai trop roulé, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. Je suis un comportement. Je suis en comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis en
comportement, c'est le titre de cette chanson interprétée par la chanteuse Aya Nakamura. 13h47, dernière partie de notre émission en français. Vous êtes sur SBS Radio. On va maintenant écouter une interview avec le jeune écrivain Guillaume Besson. Il y a une dizaine d'années, il est venu en Australie en visa vacances-travail. Il est tombé amoureux de ce pays et ça lui a même inspiré l'écriture d'un roman qui vient tout juste de paraître. On en parle avec lui tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va discuter avec un jeune écrivain qui s'appelle Guillaume Besson. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Guillaume, vous venez de faire publier votre premier roman qui s'appelle Le rêve australien. De quoi parle ce livre ?
Alors, Le rêve australien, c'est l'histoire de trois jeunes Français en situation d'échec. En échec sentimental, professionnel et familial, s'ennuyant en France et tournant en rond. Et ils vont décider de partir dans un grand voyage en Australie, à l'autre bout de la Terre, dans un visa working holiday, pour essayer de chercher un sens à leur vie. Donc mes personnages s'appellent Pierre, qui est un jeune menuisier, Valentin, un étudiant, et Elsa, une jeune femme angoissée. Ils vont se rencontrer à Sydney, dans une auberge de jeunesse, et partir ensemble dans un grand voyage à travers l'Australie. Un voyage qui va les mener à la rencontre de centaines d'autres jeunes venus du monde entier comme eux, et essayant de chercher un sens à leur existence.
Alors, vous le disiez, ces trois jeunes, ils viennent avec un visa vacances-travail. On sait que c'est une forme de séjour en Australie qui est très populaire chez les jeunes Français. Il y en a plus de 500 000 qui sont venus en Australie par ce biais au cours des 20 dernières années. C'est le pays le plus populaire, d'ailleurs, auprès des jeunes Français pour ce type de programme. Et vous-même, vous avez fait la même expérience il y a quelques années.
Exactement. Quand j'avais 19 ans, je suis parti en Australie. Ça a été la plus belle année de ma vie. J'étais jeune et c'était l'année de mes premières fois, la première fois si loin de ma famille pendant si longtemps. Je suis vraiment tombé amoureux de l'île, du pays, des paysages, de ses habitants, de cette culture si particulière. J'y ai rencontré des amis extraordinaires, j'y ai vu des paysages incroyables. Et en fait, depuis, je vis un petit peu dans la nostalgie de l'Australie. Je suis rentré il y a 8 ans maintenant. Et j'ai envie d'y retourner, j'y pense souvent, j'essaie de replanifier des voyages pour y retourner. Donc c'est une déclaration d'amour à l'Australie, ce roman.
Oui, alors je confirme, pour l'avoir lu, effectivement, c'est un portrait globalement très positif qui est dressé sur l'Australie. Il y a quand même les aspects un peu plus sombres du pays qui sont abordés, mais dans l'ensemble, on sent que ça vous a beaucoup plu. Vous le disiez, donc c'était il y a 8 ans que vous avez fait cette expérience. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire ce livre ? Peut-être que vous avez mis 8 ans à l'écrire, je ne sais pas.
Alors, quand je suis rentré d'Australie, j'ai continué mes études. J'ai fait d'ailleurs un master de relations internationales où j'ai écrit un mémoire de master sur la politique étrangère australienne. Donc, je continuais de rester très, très dans le bain de l'Australie. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que vraiment la nostalgie me prenait pendant mes heures de travail. Et j'ai voulu commencer à écrire ce roman, donc je l'ai écrit quand j'avais 24 ans. Et ensuite, ensuite, j'ai trouvé une maison d'édition. Il y a eu 2 ans de travail avec la maison d'édition et le livre sort aujourd'hui. Mais disons que ça fait 7 ou 8 ans que cette idée me trotte dans la tête et que je voulais écrire ce livre. C'était hyper important pour moi.
D'accord. Alors donc, c'était le temps de vraiment l'affiner et d'arriver au produit final qui est donc désormais disponible. Donc, vous le disiez, il y a trois personnages centraux. J'aurais même envie de dire qu'il y en a surtout deux, et une troisième qu'on voit un peu de temps en temps, mais qui est moins omniprésente que les deux garçons qu'on suit dès qu'ils sont dans l'avion, avant même d'atterrir à Sydney, d'ailleurs. On le sait bien, les romans, c'est de la fiction, mais il y a toujours une part d'expérience personnelle qui est injectée dedans par des écrivains, ou en tout cas qui sont basés sur des recherches ou des choses comme ça. Dans votre cas, est-ce qu'il y a des morceaux de votre expérience à vous en Australie qui est dans ce livre, ou c'est vraiment complètement inventé de A à Z ?
Alors, c'est un roman, c'est fictif, mes personnages sont imaginés et n'existent pas dans la réalité. Mais évidemment, ils sont inspirés de tous les jeunes que j'ai pu rencontrer en Australie. Les deux personnages principaux dont vous parlez, donc Pierre, qui est un jeune homme du sud de la France, et Valentin, qui est un étudiant parisien, très parisien dans sa manière d'être et dans sa personnalité, ils sont très différents tous les deux, et en fait, ils vont se rencontrer dans l'avion qui les mène à Sydney. Et puis, étonnamment, ils vont se lier d'amitié jusqu'à partir dans ce road trip ensemble. Je pense que je ressemble un petit peu aux deux. J'ai grandi dans la Drôme, comme Pierre, donc, qui est originaire du Sud-Est. J'ai fait mes études à Paris, comme Valentin. Et Valentin, dans le roman, fuit un chagrin d'amour. Et moi aussi, quand je suis parti en Australie, j'avais un chagrin d'amour. Donc je pense qu'il y a un petit peu de moi dans chaque personnage. Et puis il y a vraiment beaucoup d'inspiration de gens que j'ai rencontrés sur la route. J'ai voyagé avec deux menuisiers sur les routes australiennes. Et ils ont beaucoup inspiré le personnage de Pierre.
D'accord. Alors, dans ce livre, effectivement, on retrouve toutes les choses qui sont un peu communes à la plupart des jeunes Français qui viennent ici en visa vacances-travail, le travail à la ferme, généralement on le fait pour rester une année supplémentaire, des petits boulots pas toujours très gratifiants ou alors dans des endroits complètement paumés. des expériences plus ludiques aussi, on va dire. Du coup, enfin, encore une fois, vous, quand vous êtes venu en Australie, est-ce que vous avez travaillé dans des fermes? Est-ce que vous êtes retrouvé à bosser dans une station-service au fin fond du désert? Comment ça s'est passé pour vous cette année en Australie?
Alors, pour moi, j'ai pas fait... il y a plein d'expériences que je raconte dans le roman qui ne viennent pas de moi, mais qui sont inspirées de gens qui me les ont racontées. Par exemple, les 2 mois qu'ils vont passer dans une ferme d'ail dans le nord de l'état de New South Wales. C'est l'histoire d'amis à moi qui me l'ont raconté. Moi, personnellement, quand je suis venu en Australie, j'ai travaillé pour une boîte française de panneaux photovoltaïques qui venait d'arriver en Australie, qui s'appelle Newen, et qui essayait de s'implanter en Australie. Et je les ai aidés à cartographier la situation du solaire en Australie. Donc, c'était un petit boulot très différent de ce que vont faire mes personnages. Par exemple, mes personnages vont travailler dans une station-service au cœur de l'Outback qui s'appelle Marla, dans la ville de Marla, où passe le GAN qui traverse l'Australie du nord au sud. Ça, c'est complètement imaginé. C'est sur la base de recherches que j'ai faites en ligne. J'avais pris moi-même l'Indian Pacific, le train qui traverse l'Australie de Sydney à Perth. J'avais trouvé ça fascinant comme voyage. Et donc, je me suis inspiré de l'Indian Pacific pour rédiger ce passage sur la station-service où ils vont travailler pendant quelques semaines. Et puis, ils vont travailler en auberge de jeunesse. J'ai beaucoup vécu et voyagé en auberge de jeunesse, comme tous les jeunes de mon âge. Et donc, c'est un lieu très important pour ta génération. Donc, ils vont aussi travailler dedans.
D'accord. Alors, il y a quelque chose que je voulais préciser aussi, et à propos de quoi je voulais en savoir un petit peu plus. Dans votre livre, chaque chapitre est ouvert par une petite citation tirée d'un livre de Robert Hughes, qui raconte en gros... la création de l'Australie, enfin en tout cas sa colonisation par les Européens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce livre?
Alors ce livre, ça s'appelle The Fatal Shore, The Epic of Australia's Founding. Donc c'est l'histoire en fait de la manière dont l'Australie a été colonisée par les Anglais. Ça raconte le voyage de la First Fleet en 1787 d'Arthur Phillip qui part de Portsmouth et qui arrive à Botany Bay pour coloniser l'Australie. C'est un livre qui est passionnant, qui est à la fois un roman et un documentaire, parce qu'en fait, c'est extrêmement détaillé, extrêmement riche. On va vraiment suivre les voyageurs, sur tout ce voyage. C'est des jeunes Anglais qui ont été condamnés pour de divers crimes et délits, et qui vont se retrouver à la déportation, à la lisière de la terre. Ils vont arriver à Botany Bay, ils vont coloniser l'Australie, ils vont travailler pour se libérer de leur chaîne, accéder à l'amnistie et accéder progressivement au bonheur avec un lopin de terre, avec le pastoralisme, et en se rendant compte que l'île sur laquelle on les avait envoyés était assez extraordinaire. Alors c'est un livre qui est très violent, très dur, à la fois sur la dureté du voyage, à la fois sur la rencontre avec la population autochtone, les aborigènes, avec lesquels il va y avoir de la violence, des massacres. Donc ce n'est pas forcément une belle histoire, mais c'est une histoire qui est extrêmement intéressante, qui a façonné l'Australie. Et en fait, quand j'étais en Australie, j'ai vraiment voulu en apprendre plus sur l'histoire et la culture de ce pays. Et voilà, la lecture de ce livre m'a vraiment plu. Et donc, j'ai essayé de m'inspirer de ce livre dans mon roman. C'est-à-dire que mes personnages vont marcher un petit peu sur les pas de ces bagnards anglais. Eux aussi vont arriver à Botany Bay, eux aussi vont remonter la côte jusqu'au Queensland, puis traverser jusqu'à l'Australie occidentale, qui a été la dernière colonie anglaise en Australie. Et donc, je commence chaque chapitre par une citation du livre de Robert Hughes, dont je recommande la lecture parce que c'est vraiment passionnant.
Ok, alors on l'a compris, Guillaume, l'Australie c'est un pays que vous aimez beaucoup, peut-être même plus que ça d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'intention d'y revenir un jour? Je sais qu'il y a eu les élections municipales en France il n'y a pas très longtemps, vous étiez candidat, en tout cas vous étiez sur une liste candidate. Est-ce que votre vie maintenant elle est en France ou vous pensez un jour venir ici, vous installer?
Alors... on a perdu les élections, donc je suis libre de repartir vivre en Australie sans problème. Ouais, j'étais candidat dans mon village où j'ai grandi, sur une liste municipale pour être conseiller à la jeunesse, mais on a perdu les élections, donc il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là. Non, le plus gros sujet avec l'Australie, c'est que c'est à 16 000 km de la France et que ma famille me manquerait trop si je vivais en Australie tout le temps. C'est trop loin, trop cher pour voyager entre l'Australie et la France. En revanche, j'ai prévu d'y revenir. On y est retourné en fait pour les 5 ans de notre voyage. On est retourné avec une quinzaine d'amis en Australie. On a découvert la Tasmanie, qu'on n'avait pas eu le temps de faire à l'époque. Et là, on prévoit d'y retourner en 2022-2023 Noël 2022-2023 pour aller cette fois-ci dans les territoires du Nord, Darwin, où je ne suis pas allé non plus. C'est le dernier état qui me manque en Australie. Donc oui, j'ai hâte de revenir en Australie, c'est prévu, mais malheureusement, je pense que c'est trop loin de la France pour y vivre à plein temps.
Merci beaucoup, Guillaume. Donc pour les gens qui nous écoutent en France, bien sûr, le livre est disponible en librairie. En Australie, c'est plus compliqué, mais on peut le trouver en format électronique sur les sites qui vendent des e-books, Amazon. On peut aussi aller tout simplement sur le site de la FNAC. Avec Internet, il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et pour l'avoir lu, et ce livre m'a beaucoup plu, je vous le recommande à tous. Merci encore, Guillaume.
Merci, Grégory. Si je peux préciser, le livre est aussi disponible, je crois, à Sydney et à Melbourne. À Sydney dans l'Abbey's Bookstore et à Melbourne dans la librairie Intext. Donc il peut être accessible pour ceux qui se trouvent en Australie.
Autant pour moi, merci pour la précision. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur un morceau tout doux de Julien Doré qui s'intitule « Corail ». Nous, notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter toutes nos émissions et nos interviews en podcast. Il suffit pour cela de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming préférée. Passez une excellente journée et à très bientôt.
Il faut que tu t'en ailles. Tu persistes. Accroché au corail. Tu es parti pour l'orage. Close your eyes and goodbye.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.